J'ai une très bonne question pour vous. Qu'est-ce qui prouve qu'une personne appartient à la maison de Dieu? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse que nous avons tous besoin d'entendre aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je trouve ça tellement bon de recevoir l'enseignement que donne l'Épître aux Hébreux. C'est doux à mon âme d'entendre parler de mon Sauveur Jésus, d'apprendre à mieux le connaître. Vous trouvez pas? Voici les questions qu'on va poser à la parole de Dieu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut utiliser nos biens matériels pour atteindre un but spirituel? Quelle est la différence entre le régime de la loi et celui de la grâce? De quelle manière est-ce qu'on doit interpréter un texte biblique? Est-il important de comprendre qui est la personne de Jésus-Christ? Quelle est la différence entre un apôtre et un grand prêtre? Jésus nous comprend-il parfaitement? Est-ce que le Seigneur nous demande d'être fidèles? De quelle façon le Seigneur Jésus est-il supérieur à Moïse? Qu'est-ce qui prouve qu'une personne appartient à la maison de Dieu? Demeurez avec nous. Nous aurons les réponses de Dieu dans quelques instants, et ce, par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Seigneur, on est à tes pieds, et nos yeux, nos oreilles, nos cœurs sont tournés vers toi. Et on veut que tu nous instruises, que tu nous reprennes s'il le faut. On veut que tu nous enseignes ta parole pour pouvoir marcher dans ce monde d'une manière digne de toi. Enseigne-nous, Seigneur, nous t'aimons et nous t'adorons. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Nous avons déjà vu que le Seigneur Jésus est supérieur aux prophètes et nous venons de terminer une section qui démontre qu'il est supérieur aux anges. Maintenant, nous allons découvrir que le Seigneur Jésus est supérieur à Moïse. Chers amis, débutons notre lecture. Hébreux chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Ce chapitre débute avec l'expression « c'est pourquoi » et ce détail est une indication supplémentaire que Paul pourrait être l'auteur de cette épître. Nous rencontrons cette expression 43 fois dans les épîtres de Paul, sans compter celle-ci. Il l'emploie pour enchaîner avec une suite logique à ce qu'il vient de dire. Cette expression nous aide à porter nos regards dans deux directions. Ce qui vient d'être dit et ce qui va suivre. Cette expression se compare à une porte battante qui permet d'aller dans les deux sens. C'est pourquoi, frères saints. Les frères saints sont des croyants d'origine hébraïque, comme l'était l'apôtre Paul. Il était un juif de la tribu de Benjamin et il considérait tous les juifs ses frères. Cependant, les frères saints étaient les juifs qui appartenaient à Dieu et qui étaient mis à part pour le servir et le glorifier. Ils n'étaient pas saints à cause d'une conduite exemplaire ou à cause de leurs œuvres. Les biens matériels peuvent être utilisés pour atteindre un but spirituel. Qui avait part à la vocation céleste, précise le texte. La nation d'Israël avait un appel terrestre. Toutes les promesses faites à Israël dans l'Ancien Testament concernaient ce qui se passe sur la terre. Dieu a promis au peuple de la pluie venant du ciel. Il leur a promis une terre fertile et des récoltes abondantes. En plus de ces bénédictions physiques, il leur a promis des bénédictions spirituelles. Aujourd'hui, l'idée que les choses matérielles ne puissent pas être utilisées pour atteindre un but spirituel est fausse. C'est pour cette raison que les gens n'aiment pas que l'on parle d'argent dans les églises. Qu'y a-t-il de mal avec l'argent? Il peut être utilisé pour atteindre un objectif spirituel. Cela ne m'impressionne pas d'entendre une personne prier pour quelque chose, mais sans appuyer sa requête d'une contribution pour obtenir cette chose ou accomplir le projet. Par exemple, si vous priez pour une œuvre missionnaire, je recommande que vous fassiez un don à cette œuvre afin que votre prière soit plus efficace. Sinon, votre prière est comme de l'air qui s'échappe d'un ballon. Contribuer à l'œuvre de Dieu est un geste spirituel. C'est là le ministère d'un prêtre. Il offre des sacrifices spirituels, dont des dons matériels et des lèvres qui louent le Seigneur. Nous sommes passés du régime de la loi au régime de la grâce. Les frères, appelés à une vocation céleste, en avaient une terrestre auparavant. Maintenant, ils se trouvent sous un nouveau régime. Puisqu'ils se sont tournés vers le Seigneur Jésus, ils sont désormais sous le régime de la grâce et non sous le régime de la loi. L'auteur de l'Épître explique cela clairement un peu plus loin. Autrefois, les Hébreux offraient des animaux en sacrifice sous la loi mosaïque, et c'était un rituel institué par Dieu. Maintenant, ces sacrifices ne sont plus admissibles, puisque le Seigneur Jésus a entièrement accompli la loi mosaïque. Et les Hébreux sont maintenant appelés à une vocation céleste sous le nouveau régime. La vocation terrestre n'est pas disparue, mais elle est changée pour un appel céleste. Ils sont maintenant participants de la vocation céleste. Certaines personnes, lorsqu'elles témoignent à un Juif, donnent l'impression que s'il vient au Seigneur Jésus, le Juif cessera d'en être un. Nous devrions éviter de faire cela. Un homme demeure un Juif même s'il devient chrétien. Un Allemand, un Anglais ou un Français qui devient enfant de Dieu conserve sa nationalité. Personne ne nous demande de l'abandonner. Un Juif qui est venu à Jésus-Christ est toujours un Juif, sauf qu'il a maintenant compris la révélation divine et il prend maintenant part à la vocation céleste. Il est important que nous comprenions cela. L'Épître aux Hébreux ne fait pas beaucoup de sens lorsque nous cessons de considérer à qui elle est destinée, ainsi que le contexte biblique dans lequel elle a été écrite. Une règle d'interprétation biblique. Voici une règle pour nous guider dans l'interprétation d'un texte biblique. Elle est adaptée d'une règle énoncée par John Wycliffe au XIVe siècle. Vous comprendrez plus facilement l'Écriture si vous examinez non seulement le texte lui-même, mais si vous considérez aussi de qui l'auteur parle, à qui il s'adresse et le vocabulaire qu'il emploie. Vous devez aussi tenir compte de la date de rédaction du texte, de l'endroit où il a été rédigé, le but de la rédaction et les circonstances dans lesquelles il a été écrit. Vous devez aussi tenir compte de ce qui précède immédiatement et de ce qui suit immédiatement le texte que vous interprétez. Mes amis, il est difficile d'améliorer ce conseil. Si nous appliquons cette règle en étudiant l'Épître aux Hébreux, alors nous n'aurons pas de difficulté à la comprendre. L'expression « prendre part à la vocation céleste » perd son sens si elle ne s'applique pas à des Hébreux chrétiens. Avez-vous réfléchi sérieusement au sujet de Jésus-Christ? Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. La traduction œcuménique de la Bible, la TOB, emploie le mot « confession » dans ce verset. Ainsi donc, frères saints, qui avaient en partage une vocation céleste, considérez l'apôtre et le grand prêtre de notre confession de foi, Jésus. L'usage du mot « confession » est excellent. En effet, le mot « profession » a le sens de proclamer, alors que le mot « confession » comprend l'idée de dire la même chose que, de soumission et de consécration. Considérez, ce mot est la traduction du mot grec « katanoeo », qui signifie « comprendre », considérez attentivement, fixez les yeux ou l'esprit sur. Cela implique prendre le temps de faire un examen minutieux et une réflexion approfondie de ce que l'on a perçu. Nous devons prendre le temps de réfléchir sérieusement afin de comprendre qui est la personne de Jésus-Christ. Un apôtre et un grand prêtre marchent dans des directions opposées. Considérez l'apôtre. Qu'est-ce que l'auteur veut dire? Selon le sens fondamental du terme, Jésus était un apôtre. Il ne faut pas donner à ce mot plus de sens qu'il en a. Qu'est-ce donc un apôtre? Un apôtre est une personne qui est envoyée en mission. Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Parce qu'il a été envoyé par Dieu sur cette terre, il est un messager de Dieu. Il révèle la personne de Dieu. Considérez-le. Il est un apôtre envoyé par Dieu, mais observez qu'il est aussi un grand prêtre. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur. La fonction de souverain sacrificateur du Seigneur Jésus-Christ est le sujet de cet épître. Ici, l'auteur ne fait que mentionner le sujet, mais il y revient avec moult de détails plus loin. Il traitera uniquement de ce sujet à partir du chapitre 5. Un grand prêtre va dans la direction opposée à celle d'un apôtre. Un apôtre, comme un prophète, va vers le peuple avec un message de la part de Dieu. Il parle aux hommes de la part de Dieu. Cependant, un souverain sacrificateur avance dans la direction opposée sur la voie voisine. Il va représenter les hommes ou le peuple auprès de Dieu. Il représente l'homme devant Dieu. Nous avons un souverain sacrificateur qui nous comprend parfaitement. Jésus est donc notre souverain sacrificateur. Qui est-il? Il est Jésus, et l'accent est mis sur son humanité. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a un homme dans la présence de Dieu, dans la gloire céleste, et il nous représente dans cet endroit. Je suis heureux qu'il soit là, car la Bible dit qu'il est notre consolateur, notre avocat, et qu'il prend notre défense en présence de Dieu. Il est de notre côté. Il arrive que nous ayons l'impression de ne pas être compris lorsque nous parlons à quelqu'un ou à un auditoire. Par exemple, seule une personne qui a connu ce qu'est la dépendance à l'alcool, à la drogue ou au porno peut vraiment comprendre une autre personne qui a le même problème. Comment peut-on expliquer à une personne qui a toujours été en bonne santé ce que l'on ressent lorsqu'on apprend que l'on a un cancer ou une autre maladie grave? Nous risquons de ne pas être compris. Cependant, au ciel, nous avons quelqu'un qui nous comprend parfaitement. Jésus-Christ comprend tout ce que nous ressentons dans une situation pénible. Le Seigneur Jésus sait et comprend ce que vous ressentez aujourd'hui. Mes amis, nous avons besoin de considérer cela et réfléchir sérieusement et prêter beaucoup d'attention à ce fait. Nous avons un apôtre qui a été envoyé directement par Dieu et il est notre souverain sacrificateur. Il est maintenant de retour en la présence de Dieu où il intercède pour nous qui croyons en lui. Ce verset est merveilleux. Maintenant, l'auteur de l'épître va démontrer que Jésus-Christ est supérieur à Moïse. L'auteur a démontré que Jésus est supérieur aux prophètes qui ont parlé de la part de Dieu dans l'Ancien Testament, et il a ensuite démontré qu'il est supérieur aux anges. Puisqu'il s'adresse à des Hébreux, l'auteur, qui est possiblement Paul, doit démontrer que Jésus-Christ est supérieur à Moïse. En effet, Moïse était un des personnages importants de la religion hébraïque. Si les Juifs doivent considérer Jésus, il est nécessaire de leur démontrer qu'il est supérieur à Moïse. Sinon, aussi bien s'en tenir à considérer Moïse. Lisons Hébreux chapitre 3, verset 2. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Jésus a été fidèle à celui qui l'a établi. Lorsqu'il est venu sur terre pour révéler Dieu, il s'est fidèlement acquitté de ses tâches. De plus, il s'acquitte fidèlement de ses fonctions de représentant des croyants auprès de Dieu. Chers amis, Dieu apprécie la fidélité. Comme le fut Moïse dans toute sa maison. Ici, on parle de fidélité. Mais de quelle maison parle-t-on ici? Le mot maison est mentionné 7 fois dans ce chapitre. Il est donc important de bien identifier cette maison. Est-ce la maison de Moïse? Je ne le crois pas. C'est la maison de Dieu. Moïse a été un serviteur fidèle dans la maison de Dieu. Celui-ci lui a confié une mission, et Moïse s'en est bien acquitté. Il a été fidèle. Comme nous le faisons tous, Moïse a commis quelques erreurs. Il les a même rapportées alors qu'il a rédigé le Pentateuque, soit les 5 premiers livres de la Bible. Les erreurs ne sont pas dans ce qu'il a écrit, car Dieu l'a inspiré à écrire ces choses. Il a commis des erreurs dans ce qu'il a fait. Moïse était parfois irritable, et un jour il a frappé un rocher, alors que l'Éternel lui avait demandé de parler à ce rocher. C'était une erreur, car ce rocher était une illustration du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus recherche notre bien. Plusieurs années auparavant, Dieu avait demandé à Moïse de frapper le rocher. Exode, chapitre 17, verset 6. Et une fois frappé, le rocher n'avait pas besoin d'être frappé une deuxième fois. Cependant, Moïse s'est laissé aller à l'irritation et il n'a pas compris les implications de son geste en frappant le rocher auquel il devait simplement parler. Bien qu'il ait fait des erreurs et que maintenant il est décédé, c'est merveilleux de constater que Dieu se rappelle de sa fidélité. Le Seigneur Jésus félicitera les siens pour leur fidélité. C'est ce que nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Matthieu chapitre 25, verset 21. Qu'importe qui nous sommes ou quelle tâche le Seigneur nous a confiée, il nous demande d'être fidèles. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons le matériel pour nos émissions, racontait cette anecdote. Je prêchais une série de messages à l'église d'un excellent pasteur. Il ne jouait pas au golf. Mais puisque son adjoint aimait le golf, il m'a amené faire une partie. Pendant que nous jouions, il en a profité pour me dire qu'il n'était pas loyal envers le pasteur. Il a répété quelques médisances au sujet du pasteur et il a dit certaines choses qu'un adjoint fidèle à son pasteur n'aurait pas dites. Il n'était pas loyal envers l'homme pour qui il travaillait. Le lendemain, il m'a dit « J'ai fait des arrangements pour que nous puissions aller au club de golf un tel. » Je lui ai répondu. « Je regrette, mais je suis déjà engagé pour la journée. » Je n'ai jamais rejoué au golf avec cet homme. Lorsque j'ai de nouveau été invité à cette église, cet adjoint n'était plus là. Lorsque j'ai pris des nouvelles de cet homme, le pasteur m'a répondu. « Cet homme nous a attiré beaucoup d'ennuis. Nous avons découvert qu'il n'était pas loyal. » Je me suis demandé si je n'aurais pas dû avertir ce pasteur au sujet de son adjoint lorsque je me suis rendu compte du problème. Si vous ne pouvez pas être fidèle à la personne sous les ordres de laquelle vous travaillez, vous devriez démissionner de votre poste. Si vous n'êtes pas fidèle à votre supérieur, vous n'êtes pas fidèle à Dieu. Si vous n'êtes pas fidèle, et je pense surtout au pasteur, alors vous n'êtes pas digne de confiance. Je ne ferai jamais confiance à cet homme s'il était mon adjoint. » Ce pasteur adjoint m'a écrit plus tard. Il m'a demandé une lettre de référence, car il voulait devenir pasteur d'une église. Je ne l'ai pas fait. Comment recommander un homme comme pasteur alors qu'il n'était pas un adjoint fidèle? Dieu dit que Moïse a été fidèle. N'aimeriez-vous pas entendre Dieu dire la même chose de vous? Notez que le verset commence par dire que Jésus-Christ a été fidèle, qu'a été fidèle à celui qui l'a établi. De quelle façon est-il supérieur à Moïse? Lisons le verset 3. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu, mais c'est le Seigneur Jésus qui a construit cette maison. Jésus-Christ est le Créateur, et Moïse est une créature. C'est là la grande différence, mes amis. Verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Chaque maison est construite par quelqu'un. Il est impossible d'avoir une maison sans qu'il y ait eu un homme pour la construire. Une maison ne pousse pas comme un plant de tomate. Toute maison a été érigée par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, et il est le Créateur. Moïse n'a jamais pu affirmer cela à son propre sujet. De quelle façon le Seigneur Jésus est-il supérieur à Moïse? Lisons les versets 5 et 6. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Non seulement le Seigneur Jésus-Christ est-il supérieur à Moïse, parce qu'il est le Créateur, et que Moïse est une créature, mais Moïse était au plus un serviteur de Dieu. Il n'a jamais été appelé « fils de Dieu ». Le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Il y a une grande différence entre un fils dans une maison et un serviteur dans cette maison. Le Seigneur Jésus est supérieur à Moïse, car il est Créateur et Fils. Qu'est-ce qui prouve que nous appartenons à la maison de Dieu? Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. En fait, le mot « pourvu » n'exprime pas une condition, mais c'est une méthode d'argumentation fondée sur la logique. Nous aurions mieux compris la pensée de Paul s'il avait dit « puisque nous retenons jusqu'à la fin la ferme confiance ». Le mot « pourvu » traduit le mot grec « ean » dont la racine n'a pas d'équivalent exact en français. Autrement dit, si nous sommes fils de Dieu, et si nous prenons part à la vocation céleste, nous serons fidèles et nous persévérerons jusqu'à la fin. Notre persévérance prouve que nous faisons partie de la maison de Dieu. En effet, l'apôtre Jean a dit, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » 1 Jean, chapitre 2, verset 19. J. Vernon McGee affirmait croire que Dieu a permis l'arrivée de sectes religieuses pour sortir des églises des personnes qui n'étaient pas véritablement croyantes. Les sectes seraient une passoire ou un épurateur pour retirer les faux croyants des églises. Il est possible que cela soit vrai. Par contre, l'apôtre Jean ne laisse aucun doute. Votre persévérance dans la foi prouve que vous êtes un enfant de Dieu. La persévérance ne vous mérite pas le ciel. Elle en fait pas de vous un enfant de Dieu, mais elle prouve que vous en êtes un. Si vous êtes un croyant, vous tiendrez le coup, non parce que vous en avez la force, mais parce que le Seigneur Jésus vous gardera. C'est lui qui vous a fermé. L'auteur de l'Épître présente un argument, et non une condition. Il dit que puisque nous faisons partie de la maison de Dieu, nous persévérons jusqu'à la fin. Nous tiendrons ferme jusqu'au bout. J'utilise toujours l'attitude d'une personne envers la Bible pour déterminer si elle est vraiment un enfant de Dieu. Une personne qui fait partie de la maison de Dieu accepte et se soumet à la parole de Dieu. Elle tient la parole en haute estime, et bien plus, elle aime la parole de Dieu. Cette personne aime entendre son Père céleste lui parler. Elle va donc la lire régulièrement. Elle voudra de grosses portions de cette nourriture spirituelle savoureuse, et elle ne se contentera pas de quelques graines ou des miettes qui tombent sous la table. Écoutez ce texte. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Citation du psaume 19, versets 8 et 9. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Hébreux chapitre 3, les versets 6 à 10.
Merci beaucoup, Régent. Tu nous as parlé de la fidélité aujourd'hui. On a vu que Jésus est notre modèle de fidélité par excellence. Mes amis, j'exerce un ministère dans mon église avec et auprès d'une trentaine de personnes. Ce sont des chanteurs, des musiciens, des techniciens de son, des éclairagistes, des préposés au PowerPoint. Quelques-uns d'entre eux étaient là avant que je me joigne à cette église. Et ce qui m'a le plus épaté chez eux, au-delà de leur talent, c'est leur fidélité. Quand je suis arrivée parmi eux, ils étaient au ministère de louange et d'adoration à tous les dimanches, ce qui impliquait une répétition le vendredi soir ou le samedi matin, ainsi qu'une dernière répétition tôt le dimanche matin avant le culte. Il n'y avait personne pour les remplacer. Ils étaient toujours fidèles au poste et avec joie. Et depuis, d'autres se sont joints à nous, dont plusieurs sont fidèles aussi, surtout qu'ils avaient déjà des modèles à imiter. Et je peux déjà voir le Seigneur qui un jour leur dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Le Seigneur aime la fidélité. Réjean nous a aussi parlé de la persévérance aujourd'hui. Il a dit que notre persévérance prouve que nous faisons partie de la maison de Dieu. Il a ajouté que si on est un croyant, on tient le coup. Non parce qu'on en a la force, mais parce que le Seigneur Jésus nous garde et nous affermit. Mon frère, ma sœur, si tu es fidèle, si tu es persévérant, c'est vraiment bon signe. Et n'oublie pas que ce n'est pas parce qu'une personne est parfaite qu'elle fait partie de la maison de Dieu, mais parce que Jésus, Dieu fait homme, celui qui est parfait, qu'il l'a toujours été et le sera éternellement, ce Jésus merveilleux est venu sur cette terre pour recevoir le châtiment qu'on méritait tous pour nos péchés, afin qu'on puisse, par la foi en lui, recevoir le pardon de nos péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Alors mon ami, toi qui écoutes cette émission, peut-être que tu n'as pas encore reçu Jésus comme sauveur. Eh bien, tu peux le recevoir maintenant. En quelques instants, tu pourras être certain que le jour où tu mourras, tu iras au ciel pour être avec Dieu éternellement dans sa joie, dans la paix, dans l'amour parfait. Alors, mon ami, repens-toi. Tu es un pécheur, tout comme moi. Mais tu peux devenir un pécheur pardonné, un enfant de Dieu, en plaçant ta confiance en Jésus seul. Demande à Jésus de te sauver, de te donner cette vie éternelle qu'il veut tant te donner. Jésus est mort sur la croix pour toi, personnellement. Il a souffert, il a été fouetté, flagellé, couronné d'épines, il a reçu des coups de poing, des crachats. Il est mort pour toi, mon ami. Il a payé ta dette en entier et il s'invite chez toi en ce moment. Ouvre la porte de ton cœur et reçois-le. Tous tes péchés seront effacés. Et c'est alors que tu commenceras une vie de fidélité et de persévérance qui te mènera jusqu'au ciel. Imagine-toi passer l'éternité dans la présence de Jésus, celui qui t'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Ouvre ton cœur et laisse entrer Jésus, ce sauveur merveilleux.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.